vous remercie, Sylvie, et je voudrais remercier toutes les puissances invitantes, parce que c'est vraiment non seulement agréable de venir à Lausanne, mais c'est aussi très stimulant intellectuellement, et je remercie aussi Raina qui m'a ouvert des horizons nouveaux avec sa conférence. Même si à la fois c'est toujours, on se dit mon Dieu, je suis passée à côté de tant de choses. Bon, mais voilà. Je voulais aussi faire tout de suite une petite remarque sur la qualité des papiers que j'ai eu à lire, des doctorantes. Donc la qualité est vraiment très bonne globalement. Après, on va prendre séparément, mais donc ça aussi, j'ai été très contente d'être confrontée à ce type d'expérience. Donc, on m'a demandé de présenter mes travaux en histoire du genre. Alors, je vais évidemment faire des coupes dedans parce que presque tout mon travail, en fait, presque tous mes travaux depuis plus de 20 ans relèvent des questions de genre et de la sexualité dans une optique plutôt méthodologique et axée sur la cruciale question des sources pour les historiens, surtout les 19e-mistes, qui ne peuvent pas, comme les sociologues, créer, produire eux-mêmes des sources en créant des entretiens, parce que nous sommes vraiment tributaires des traces que nous pouvons trouver, exploiter au XIXe siècle. Alors, en règle générale, mon travail est ancré dans l'histoire sociale et culturelle du XIXe siècle, et donc sous-tendu par les problématiques de genre, et s'intéresse prioritairement, entre privé et public, aux interrelations entre les individus, la société et l'État, avec les différents sous-groupes, sous-ensembles. Alors, plus précisément, ce travail interroge les imbrications entre affect, corps, sexe et sexualité dans leurs articulations sociales, ainsi que la capacité de l'individu à exprimer à travers ces paramètres une singularité face au processus d'identification et de catégorisation socio-culturelle et étatique des individus ou des groupes. Alors, je voudrais en fait commencer en vous parlant un petit peu d'amour, qui plus est d'amour romantique, puisque je suis dans une école doctorale, je vais partir de ma thèse sur l'éducation sentimentale des filles et des garçons sous la monarchie censitaire, première moitié du 19e, que j'ai soutenue en 1990. Le livre est beaucoup plus tardif, il est beaucoup plus large que la thèse, qu'il ne faut pas regarder, il faut regarder le livre, parce que la thèse est vraiment moins intéressante. Alors, à l'époque, c'était un sujet, l'amour, qui n'était pas du tout considéré comme légitime en histoire. On trouvait que c'était absolument pas sérieux, que ça relevait de la littérature. Et j'ai heureusement bénéficié du soutien de deux formidables historiens et historiennes avec qui j'ai effectué la totalité de mon cursus universitaire, Alain Corbin, avec qui j'ai fait ma maîtrise et mon HDR, et au milieu, Michel Perrault, avec qui j'ai fait mon DEA et ma thèse. Et je suis vraiment heureuse de pouvoir les citer tous les deux, parce que je leur dois beaucoup, et même plus. Et voilà, et c'est un grand plaisir, un grand honneur d'avoir pu travailler avec les deux. Et par ailleurs, du coup, mon éducation universitaire a été très genrée elle-même, parce que j'avais deux pôles forts dans mes inspirations. Alors, une des raisons de mon choix de sujet de thèse était inspirée par une lettre que Gustave Flaubert envoya le 6 octobre 1864 à Mademoiselle Leroyer de Champy, une de ses admiratrices. Il y exposait ses intentions au moment de se lancer dans l'écriture de ce qui deviendra l'éducation sentimentale. Et il dit « Je veux faire l'histoire morale des hommes de ma génération, sentimentale serait plus vrai, c'est un livre d'amour, de passion, mais de passion telle qu'elle peut exister maintenant, c'est-à-dire inactive. Le sujet tel que je l'ai conçu est, je crois, profondément vrai, mais à cause de cela même, peu amusant probablement. » Alors, cette citation m'avait beaucoup interpellée. Trois notions essentielles sont mises en évidence. D'abord, celle de génération, qui introduit l'idée d'une filiation commune à ceux qui, comme lui, Flaubert, sont nés et ont grandi avec le romantisme. Cette expérience partagée qui aboutit à un véritable engendrement de l'histoire interdit la fabrication d'une authentique individualité si l'on suit l'analyse de Jean-Paul Sartre dans son monumental travail biographique consacré à Flaubert, l'idiot de la famille. C'est que l'homme n'est jamais un individu, il vaudrait mieux l'appeler un universel singulier, totalisé et par là même universalisé par son époque, il la retotalise en se reproduisant en elle comme singularité. La seconde notion, je reviens à Flaubert, la seconde notion utilisée par Flaubert est celle d'histoire morale, qui prise dans son sens littéral signifie qu'il entend s'intéresser aux mœurs de l'époque. Le glissement sémantique opéré avec histoire sentimentale est significatif. Il restreint le sujet d'étude et installe le cœur et ses effusions comme agents principaux de la dynamique de l'histoire et de la société. Enfin, il donne une des clés de l'intrigue romanesque en parlant de passion inactive. Il accole dans cette expression deux termes a priori plutôt antinomiques. Le premier, passion gronde, si on peut dire, d'ardeur incontrôlable, et vient se heurter à l'immobilisme du second, inactive. Et par là, l'écrivain manifeste l'intuition de l'un des grands paradoxes qui gouverne son temps. Car si, comme le souligne Georges Gusdorf, un des grands théoriciens du romantisme, le romantisme reconnaît l'ordre émotionnel et affectif comme une dimension significative de la réalité humaine, et si ce romantisme exalte la jeunesse et la passion amoureuse, il s'épanouit pourtant dans une monarchie censitaire à l'inquiétude raisonneuse qui dévalorise le sentiment amoureux et bride étroitement sa jeunesse, les filles bien sûr, bien plus encore que les garçons, et subordonne notamment leur sensibilité affective à sa politique d'alliance matrimoniale. L'amour romantique qui épure la femme jusqu'à la métamorphoser en ange bienfaisant déjoue la barrière sociale des sexes pour les fusionner dans la figure de l'androgyne. L'amour, valeur absolue de la conscience romantique, s'oppose alors aux enjeux fort peu sentimentaux et à la philosophie du mariage bourgeois. Pour autant, il existe des interactions entre le discours romantique, le discours social et les comportements privés, particulièrement sensibles dans les domaines des affects, du corps et dans la construction des identités de sexe. Elles s'expriment notamment par l'émergence et la circulation de modèles littéraires assez éloquents pour influer sur les pratiques individuelles. On peut par exemple déceler les empreintes des modèles werthériens ou byroniens dans l'affectation des postures amoureuses préconisées par le code romantique, le calcul de la toilette et de l'attitude, la théâtralisation des émotions, larmes, pâleur, rougeur, évanouissement chez les hommes et pas simplement chez les femmes, et le spectacle de la gestuelle qui est ici moqué par Charles Philippon, le genou à terre lors de la déclaration d'amour, en même temps que l'emphase inaudible de la rhétorique romantique. Ainsi également du René de Chateaubriand, un des livres phares du romantisme, qui fait scandale lors de sa publication en 1802. Ce roman d'inspiration autobiographique, exposant la passion amoureuse d'Amélie pour son jeune frère René, c'est-à-dire en fait Chateaubriand lui-même, et sa sœur aînée, est dévoré clandestinement par toute une génération qui s'identifie pleinement au héros, tandis que Charles Nodier, un autre des grands théoriciens du romantisme du 19e, légitime la tentation de l'inceste sous-jacente dans l'œuvre. En accordant à la jeune fille la capacité de hisser son amour jusqu'à la passion, sans que paradoxalement cela nuise à son innocence, les romantiques ont contribué à lui donner une physionomie nouvelle et ambivalente, assez séduisante pour que certains cherchent à se l'approprier à travers la figure, cette fois-ci, de la sœur élective. Je vous donne un exemple précis. Quand Alfred de Musset appelle George Sand, sa maîtresse, tour à tour dans sa correspondance, sœur chérie ou frère adoré, il ajoute par la connotation incestueuse et la transgression du genre au raffinement érotique de la relation. Parfois déçu par la distribution des affects parents-enfants au sein de la famille, des frères ont expérimenté avec leurs sœurs les modalités de construction du désir romantique, cherchant à ériger la relation adelphique en une étape privilégiée de leur apprentissage amoureux. Aux grandes dames d'ailleurs des jeunes filles qui, au jeu des transgressions, apprennent vite qu'elles ont beaucoup plus à perdre que les garçons, fussent-ils leurs frères. Aussi reculent-elles souvent devant l'expression d'un sentiment trop exacerbé, comme par exemple ce que peut écrire ce jeune homme Louis Noël qui envoie cette lettre à sa sœur le 23 août 1829. Vous pouvez lire, si je ne vous avais pas dit que c'était un frère et une sœur, je suis sûre que vous m'auriez dit quand même que c'était plutôt un amant pour sa maîtresse. Et la jeune Elisa Noël qui reçoit ce courrier lui répond, et il y en a d'autres, lui répond posément « Écrivons-nous en frère et non en amant, ce langage passionné convient à l'amour ». Les rapports réflexifs entre littérature imaginaire et comportement social sont empreints d'une grande fluidité qui se remarque aisément à travers l'analyse du motif de l'éducation sentimentale dans la première moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire une femme mariée d'un certain âge prenant en charge l'apprentissage amoureux et mondain, c'est important, d'un jeune homme, mais aussi à travers sa genèse qui s'élabore au sein des familles en fonction de la distribution affective intrafamiliale et également dans les collèges de l'État pour les garçons. Il s'agit dès lors de sortir l'enfant mâle des jupes de sa mère ou de ses sœurs afin de lui inculquer l'instruction nécessaire à son avenir d'acteur social, en même temps que les caractères de la virilité bourgeoise. Les processus normatifs sont puissants dans ces collèges, impulsés par les adultes, mais souvent relayés par les plus anciens des collégiens, dans des manifestations de bizutage d'ailleurs. Le théâtre de la masculinité est régi par des codes collectifs. Je prends deux exemples. La circulation des discours, des images et des écrits pornographiques que les garçons font circuler entre eux, et également la virée au bordel, qui est un acte généralement collectif chez les garçons. Ainsi également que par une rhétorique grossière qui s'appuie sur le mépris des femmes. Ainsi s'affirme la cohésion du groupe et sa suprématie sur l'individu. Mais ainsi s'expliquent aussi les dérobades de l'imaginaire capable de supprimer la femme, l'archétype féminin, et le sentiment amoureux, l'élection d'un confident, d'un alter ego, et l'exaltation raffinée du dialogue intime. Dans un tel contexte, la vogue des textes romantiques lue furtivement dans les collèges qui proposent une autre idée de la virilité des rapports de couple, peut-être interprétée comme une échappatoire temporaire à l'élaboration abrupte d'une identité de sexe dans laquelle les jeunes gens peinent à se reconnaître parfois. Ce chantier investi par les littéraires et les historiens peut rejoindre les préoccupations actuelles, je crois, des sociologues et des anthropologues, lorsqu'ils s'intéressent au rôle de la fiction, littérature, télévision, cinéma, dans la formation des identités sexuées. Par ailleurs, je signale qu'une de mes doctorantes, Déborah Guterman, achève justement une thèse sur ce sujet qu'elle soutiendra en juin sous le titre « Incarner l'homme et la femme, les normes sexuées et leur appropriation à l'âge romantique ». Enfin, ceci dit, si le titre ne change pas, parce que ça doit être le 30e titre qu'elle me propose, mais je pense qu'elle va garder celui-là. Donc, si l'influence des modèles littéraires peut s'approcier d'un siècle à l'autre, voire sur une durée pluriséculaire, je prends un exemple, l'association conceptuelle entre amour et formation de l'individu à travers les enseignements qu'il reçoit dans sa vie sentimentale remonte au moins au dialogue de Platon. Donc, ce n'est pas une nouveauté du 19e siècle. Il importe également de s'attacher aux spécificités d'une période donnée. Ainsi, des corrélations existent entre un romantisme qui conçoit volontiers l'amour comme une religion et une société qui enregistre au lendemain de la Révolution française le retour en force du catholicisme jusque dans le gouvernement des ultras, tout à fait à droite dans l'échiquier politique. À l'angélisation romantique de la femme répondent également à la célébration de l'ange gardien, encouragée en 1821 par Pie VII, mais surtout la célébration accrue de Marie, icône de l'amour maternel, sécrétant l'exemplarité féminine, et que le dogme de l'Immaculée Conception, prononcé en 1854, désincarne encore un peu plus en déclarant sa conception exempte des souillures du péché originel. Les femmes, et plus encore les jeunes filles, ne peuvent échapper à cette dynamique nouvelle. D'un côté, la désexualisation d'un corps rendu presque diaphane, et de l'autre, le rappel au sacrifice de la maternité. Ces jeunes filles sont barricadées derrière la double tutelle de l'Église et de la mère. Elles sont façonnées par une éducation morale manichéenne, desservie par la vacuité d'une instruction rudimentaire et, pour englober le tout, caparaçonnée d'innocence, qui est un concept normatif qui ensevelit la virginité du sexe et du corps sous les impératifs d'ignorance, de chasteté, de pudeur et de pureté. Encore qu'il faille distinguer ici les élites bourgeoises et aristocratiques des milieux populaires où les filles découvrent les corps et la sexualité de façon ritualisée ou empirique. Ce modèle catholique de loi blanche va être bientôt mis en France en regard, en balance avec la permissivité du modèle anglo-américain protestant qui privilégie la coéducation des sexes, le principe du libre arbitre et la rapide initiation de la fille au mystère de la vie. Et donc ce modèle catholique de loi blanche va progressivement s'assouplir au cours du 19e siècle. Les demoiselles catholiques qui souhaitent voir leurs aspirations sentimentales davantage prises en compte dans leur mariage vont petit à petit s'affranchir de leur traditionnelle ignorance en s'appropriant notamment la culture du flirt qui vient d'Angleterre et des États-Unis. Mais quand émerge à la belle époque, dans les dernières décennies du siècle, l'idée d'une éducation sexuelle qui permettrait aux filles de comprendre le processus de reproduction, les mères, chaînon indispensable dans la transmission d'un savoir aussi fondamental que délicat à formuler, se dérobent à la tâche, en dépit des objurgations des pédagogues et des médecins inquiets des dangers de la propagation vénérienne. Et cette attitude montre à quel point les femmes, elles-mêmes soumises à une éducation du non-dit, du subterfuge et de la contrainte, éprouvent des difficultés à surmonter les fortes inhibitions dont elles ont payé le prix pour essayer d'en protéger un petit peu leurs filles. Lorsque, à la puberté, le corps féminin devient apte à la maternité, il bascule dans le patrimoine social. Utile, il devient méritoire et précieux. C'est alors que la discipline corporelle se fait plus pressante et plus absolue, en thésaurisant la virginité des filles, en comptant et régulant leurs gestes, en économisant leurs désirs et aussi leurs plaisirs. Les discours dominants sur le corps féminin évoluent cependant au XIXe siècle avec les théories hygiénistes, qui préconisent davantage de mouvement et de vigueur pour des demoiselles, trop souvent statiques et chlorotiques. Ainsi, après la défaite de la France en 1870, de nombreux observateurs sociaux réclament des femmes plus vigoureuses, capables de mettre au monde des enfants robustes dans le cadre du combat pour la régénération de la race. La pratique féminine de l'équitation, par exemple, qui se développe beaucoup à partir du Second Empire, je suis évidemment dans la bourgeoisie et l'aristocratie, répondait déjà à ces incitations. Mais pour en respecter les codes sexués de l'excellence corporelle, la société prescrit avec la monte en Amazone une position, une tenue vestimentaire, un harnachement, un cheval et une éducation distincts de ceux des hommes. Plus que de l'aristocratie dont les femmes pouvaient monter à califourchon à la cour du siècle précédent, à commencer par la reine Marie-Antoinette, ce souci porte la marque de la bourgeoisie qui considère d'abord le corps comme une machine où peuvent se décrypter les indices de la santé organique plutôt que les signes d'apparence, d'appartenance socio-culturelle. Certains de ces paramètres se retrouvent dans l'épopée du cirque privé fondée en 1880 par Ernest Mollier avec l'aide d'une troupe d'amateurs recrutés parmi ses amis nobles et grands bourgeois. Alors, c'est un point que je trouve assez intéressant à développer. Le spectacle, d'un niveau technique approchant celui des cirques professionnels, s'impose comme l'un des rendez-vous les plus courus du tout Paris de sa naissance, hein, de 1880 à 1933, donc sur une assez longue période. L'ambivalence de Ernest Mollier, dont la politique hésite justement entre privé et public, entre respect avisé des convenances et velléité transgressive, est l'un de ses traits distinctifs. Elle se lit dans toute l'économie socioculturelle de son cirque, d'abord dans le choix de ses compagnons appelés à fouler la piste avec lui, jusqu'à l'élection des Happy Few, invités à les applaudir, en passant par la distribution des numéros. Le choix aussi d'organiser une double représentation du même spectacle pour deux publics féminins ne pouvant pas se côtoyer, à savoir les dames du grand monde accompagnant leur mari d'une part, et de l'autre les demi-mondaines, les prostituées, les courtisanes si vous voulez, accompagnant à leur tour les maris des premières. Donc on a séparé, évidemment, ces deux dames ne pouvant pas se croiser. Les hommes restants, c'est le même public masculin. Tout ceci entraîne une première polémique dans la presse mondaine. Mais dans une fin de siècle que beaucoup vivent comme crépusculaire, le cirque Mollier échappe bientôt à sa vocation initiale de simple divertissement privé pour devenir un catalyseur des idées, des angoisses et des fantasmes qui agitent les esprits autour des rapports régissant les deux sexes, mais surtout autour des notions de race, d'hérédité et de dégénérescence, débattues en même temps qu'était discuté le rôle social et politique de la noblesse. Le cheval, identifiant culturel emblématique du pouvoir masculin, et dans ce contexte un authentique révélateur des termes et des enjeux du débat. C'est en effet lorsque les représentants de la noblesse le délaissent pour lui préférer des numéros de gymnastique et de force, moulés en plus dans des maillots qui mettent en valeur leur anatomie, c'est lorsque ces nobles foulent à pied et non à cheval la piste du cirque qu'enfle et qu'éclate une virulente polémique politique cette fois-ci. Et il y a des dizaines et des dizaines d'articles, hein, c'est pas du tout quelque chose de petit. Le débat est relayé par la presse de tous bords, il se focalise sur l'éventuel discrédit d'une noblesse qui prétend jouer aux artistes de cirque, sur la pertinence de l'exhibition des corps et de l'utilisation de la force, et plus généralement sur le degré de sa dégénérescence et de sa capacité à assumer son rôle parmi les classes dirigeantes. Au-delà de la traditionnelle recherche de la prouesse, détentrice d'un prestige de bon aloi, ces athlètes aristocrates introduisent une rupture culturelle en faisant fructifier leur capital viril intrinsèque par la parade corporelle et par la démonstration de leur force musculaire. Cette publicisation du corps aristocratique masculin, même si elle intervient dans un cadre privé, fascine des journalistes de droite et de gauche qui oscillent entre persiflage et admiration. Il y a ceux qui fustigent le désir de paraître de jeunes gens partiellement dénudés dans leur maillot d'athlète. Ils s'inquiètent de les voir s'abaisser au rang, je cite, des ordinaires, sinon des vilains, ce sont leurs expressions, en mettant l'accent sur la force musculaire, dont je rappelle qu'elle est la seule richesse du peuple prolétarien, au détriment de l'intellect et des responsabilités politiques. À l'opposé, il y a ceux qui légitiment au contraire les numéros de force et d'adresse en les rattachant aux saines habitudes de la Grèce ancienne et en rappelant l'attachement pluriséculaire de l'aristocratie aux exercices du corps. Ils se félicitent de cette belle vigueur qui doit avoir raison de ce qu'on appelle les petits crevés de fin de race, illustrant ainsi une tendance à la biologisation caractéristique de la réflexion générale menée par les médecins, surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle, autour donc de ces notions de dégénérescence et de race. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, cette réflexion trouvera un aboutissement saisissant dans les théories eugénistes d'un médecin qui, poussant jusqu'à son terme l'identification de la noblesse au cheval, veut améliorer et contrôler la qualité des accouplements en créant un véritable ara humain. J'ai combiné ces travaux sur les affects et le corps avec une histoire des identités de sexe et de leur mode de transgression. La discipline de l'amour analyse en effet la brutale phase d'apprentissage de la masculinité que les garçons subissent principalement dans les collèges, tandis que les filles apprennent dans le même temps, de façon tout aussi déterminante mais moins abrupte, les vertus propres à leur nature et les charges futures inhérentes à leur féminité. La séparation d'avec la mère se veut réduite au minimum pour les filles, afin que cette dernière puisse jouer le rôle qui lui a été réservé par la société du XIXe siècle et que synthétise ainsi un pédagogue du XIXe siècle, Alphonse Piffaut, en 1908, « Ce qu'est la mère sera la fille ». Tout est dit par cette formule. La question de la responsabilité des femmes dans l'élaboration, la participation et la perpétuation d'un ordre social et politique qui leur est défavorable se pose notamment, comme les féministes l'ont montré dans les années 1970, à travers la transmission de mère en fille d'une identité normée et aliénante. Complexe et intense, cette relation entre la mère et la fille a depuis une vingtaine d'années été privilégiée par les sociologues et les psychologues et les psychanalystes, mais curieusement délaissée par les historiens, qui ne l'ont guère traité qu'à travers le prisme de la maternité ou de l'éducation des filles. Et c'est pourquoi j'avais accepté il y a quelques années, à la demande d'un éditeur, de lui consacrer un livre qui par ailleurs fait aussi la part belle à l'iconographie. Alors, au-delà de la construction des identités de sexe, je m'intéresse au rapport entre les femmes et les hommes et à leur mode d'insertion dans le lien social et culturel. Comment, autour d'un certain nombre de combinaisons, hommes-femmes, nature-culture, émotion-raison, jeunes, adultes, élites, peuples, discours pratiques, individus, familles, sociétés, églises, états, etc. Le partage des rôles sociaux au XIXe siècle est défini et théorisé, mais comment aussi il peut être subverti et détourné? Comment des femmes décidées à investir pleinement le champ social et à y circuler peuvent, avec ou sans l'éclat des revendications féministes, créer des espaces de liberté d'entreprise et d'action, y compris en débordant de leur sphère traditionnelle pour s'aventurer dans des territoires réputés masculins, quitte à affronter des manifestations d'hostilité quand ce ne sont pas de véritables conflits. Alors évidemment, j'ai un exemple, c'est celui de l'exceptionnel itinéraire de Marie-Isabelle à qui j'ai consacré un livre. C'est une fille de cordonnier, petite actrice, modiste, faisait des chapeaux, dresseuse de chevaux, ce qui est déjà beaucoup plus étonnant, femme d'affaires bientôt, et elle va connaître au XIXe siècle une irrésistible ascension sociale lorsqu'elle va réussir à vendre à l'armée une méthode de dressage de chevaux de troupe de son invention. Alors ça peut vous paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Je vous rappelle qu'à cette époque, on fait encore la guerre à cheval. Donc c'est évidemment très important. Alors, on sait que depuis la fin du XVIIIe siècle, l'armée, non contente d'avoir banni de ses rangs l'élément féminin, s'est attachée méticuleusement à définir, à promouvoir et à transmettre un concept normatif de masculinité qui fait d'ailleurs d'elle, à côté du collège, une efficace école de la virilité. L'envoi à l'école de cavalerie, qui en France est le nec plus ultra la formation pour les officiers de cavalerie. Donc l'envoi à l'école de cavalerie de Marie-Isabelle, l'envoi par le ministère de la guerre. de Marie-Isabelle, dotée d'une fonction officielle, qui la hausse en situation virtuelle de commandement, elle reçoit d'ailleurs une solde de colonel, hein, ce qui n'est pas rien, et c'est une première au XIXe siècle, hein, prend évidemment à rebrousse-poil, si je puis dire, les officiers. Parce qu'elle est femme, mais aussi civile, Marie-Isabelle leur impose une double altérité que ces hommes militaires vont subir avec une répugnance marquée, avant de parvenir à la bouter hors de leur univers, au terme d'une farouche confrontation qui ébranle les plus hautes sphères de l'armée et parvient jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à Napoléon III. Le ministre de la Guerre relève Marie-Isabelle de ses fonctions après 6 mois passés à l'école de cavalerie, après la démission de l'écuyer en chef de l'école de cavalerie. Voici la méthode de dressage, je ne vous l'explique pas là, mais, c'est bon. Mais si vous voulez, je peux le faire. Et voici aussi une image de cette confrontation qui est quand même intéressante. Marie-Isabelle vue par le dessinateur Vallée. Alors qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Évidemment, elle est en tenue de prostituée, hein, voilà, avec quand même le lampion, le chapeau des officiers du cadre noir, et elle est d'ailleurs montée sur un cheval précis que l'on appelle à Saumur au cadre noir un sauteur, c'est-à-dire un cheval qui exécute des sauts hérités du Moyen-Âge, la croupade, etc. Et c'est pas un hasard si on l'a mis sur un sauteur, évidemment, avec cette légende d'une très jolie fille, Marie-Isabelle, avec laquelle on faisait volontiers un panache. Un panache est une chute en termes d'équitation. Et donc vous avez ici une manifestation de cette tradition moqueuse à connotation sexuelle très importante. Je vous rappelle que la façon de célébrer un toast chez les officiers, encore aujourd'hui, hein, de cavalerie, c'est... C'est par Saint-Georges, alors c'est à nos chevaux, à nos femmes, à nos chevaux, non, à nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. Donc on voit bien cette tradition qui perdure, hein, encore beaucoup. Alors c'est cette image de Marie-Isabelle qui va rester dans la mémoire. Par ailleurs, tout le monde s'est empressé de la faire tomber dans une oubliette. Hein. Plus personne ne connaissait cette femme qui est pourtant très intéressante. Marie-Isabelle a réussi à être, selon l'expression de Madame de Staël, la force impulsive de sa propre destinée. Mais son sexe la rend de fait subversive et jamais la société française, qu'elle soit militaire ou civile, ne lui a laissé oublier quel fardeau pesant il était. Et c'est ainsi quand même que la fille de cordonnier éblouie a pu certes s'approcher un temps des splendeurs du monde aristocratique, mais que restant aux yeux du monde une parvenue, et de surcroît elle sera mise en faillite, elle va expier ses ambitions défaites à l'hôpital des pauvres, où elle meurt comme avant elle sa mère et son père dans une morale que n'aurait pas renié Honoré Balzac. Alors, je vais emprunter à Arlette Farge sa jolie expression du goût de l'archive, et cette deuxième partie sera plus centrée donc sur la prostitution et l'hermaphrodisme, en mettant en évidence la question des sources, qui évidemment est essentielle. En commençant à travailler sur les comportements amoureux des individus, je me suis d'abord intéressée à ce que Philippe Lejeune appelle les sources du moi, c'est-à-dire les journaux intimes, les mémoires et les correspondances, tous ces écrits personnels qui impliquent leurs signataires dans le jeu complexe des relations à autrui et à eux-mêmes. Alors évidemment, il y a beaucoup de personnes, hein, qui ont écrit sur les autobiographiques, mais je cite un des précurseurs, hein, Philippe Lejeune, et je cite aussi un ouvrage sur lequel je vais revenir, de Anne-Claire Hébrien. Donc ces textes sont très délicats à utiliser, ces mémoires, ces sources du moi, parce qu'évidemment, elles sont victimes de l'autocensure qui est communément pratiquée par les hommes et presque systématiquement par les femmes. Il n'y a presque rien sur l'amour et il n'y a rien, ou quasiment rien, enfin un petit peu chez les hommes et quasiment rien chez les femmes sur la sexualité au XIXe siècle. Même quand la règle tacite du silence a été enfreinte par certains, leurs écrits personnels ne parviennent souvent à la publicité que expurgés par les personnes qui les publient. Alors, même difficile à exploiter, ce type de source est néanmoins indispensable pour qui veut travailler sur les pratiques amoureuses, comme l'a fait par exemple récemment Anne-Claire Hébrien dans une très belle thèse dont ce livre est tiré, qui s'appelle « Intimité amoureuse, France 1920-1975 », donc ça intéressera directement Sylvie et ceux qui travaillent sur la sexualité au XXe siècle. C'est sorti récemment en 2008, la thèse doit dater de 2007, et elle a principalement appuyé son travail sur un important corpus d'autobiographie qui est déposé à l'APA, l'Association pour l'autobiographie, et le patrimoine autobiographique qui est justement créé par Philippe le Jeune et qui est déposé à Lyon. Je le signale à tout le monde, hein. C'est une manne extrêmement importante et plusieurs travaux en cours se font à partir de ce fonds qui a été déposé à Lyon. Pour saisir la représentativité ou la singularité des comportements, les replacer dans le cadre familial et social, il existe toute une littérature de préceptes normatifs attachés à la conduite sociale, morale, sentimentale et sexuelle que l'on trouve dans les écrits des pédagogues, des ecclésiastiques, des médecins, des auteurs de manuels de civilité, ainsi que dans la presse. Je ne reviens pas là-dessus parce que c'est ce qui est le mieux connu. Donc je passe. Enfin, pour tenter de capter l'imaginaire amoureux romantique, j'avais fait appel à la littérature, mais aussi j'avais fait le choix d'accorder un traitement privilégié à l'iconographie. Et c'est un choix qui est une constante dans mes travaux, que ce soit la lithographie, la photographie ou même le cinéma. Quand c'est possible, c'est-à-dire quand je sors du 19e siècle, bien sûr. En l'occurrence, pour ma thèse, j'avais fait le choix de la lithographie qui passait certes pour frivole et anecdotique aux yeux des historiens, mais je n'étais plus à ça près. Mais c'était un moyen important puisque facile, rapide, économique, la lithographie avait connu un essor formidable pendant la monarchie de Juillet. Par ailleurs, je crois avoir été une des premières à faire un usage systématique de ce type d'image comme source à part entière et non comme simple illustration légendée avec des analyses intégrées dans le corps du texte. C'est une démarche qui aujourd'hui peut paraître évidente, mais ça ne l'était pas du tout il y a 20 ans. Et j'avais imposé à mon éditeur de garder cette forme, c'est-à-dire de garder les analyses intégrées dans le corps du texte et non pas de faire des légendes même importantes. Depuis, j'ai élargi mes corpus de sources en me plongeant avec des listes dans les archives manuscrites. Pour me renseigner sur les individus, j'ai fait appel aux archives d'état civil, au recensement de population, aux archives notariales et sans doute moins connues, mais souvent très intéressantes, au calepin des propriétés bâties, qui sont des documents établis par l'administration fiscale pour chaque immeuble parisien. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent en Suisse. Et on y trouve des informations qui peuvent s'avérer décisives dans une recherche. Alors, je vais prendre un exemple précis qui concerne un appartement qui a été habité par Marie-Isabelle au 64 rue Neuf des Petits Champs, c'est-à-dire dans un pôle commercial de première importance à Paris. Alors, cette archive donne d'abord le nom de... des locataires. Donc ici, ça a été rayé parce qu'on a gardé le nom de la dernière personne qui habite au moment où est passée la personne de l'administration fiscale qui s'appelait Dodin. Mais donc, j'ai retrouvé, à ma grande joie, parce que quand j'ai trouvé ce document, je n'avais rien sur Marie-Isabelle, je ne savais même pas si elle était mariée. Donc, je trouve Isabelle, dame Isabelle, née Simonin Stéphanie. Donc déjà, j'apprends que son nom de jeune fille et qu'elle était mariée. Ensuite, j'ai appris, je ne peux pas tout dire, hein, mais j'ai appris dans les choses vraiment épatantes qu'elle était modiste et qu'elle était séparée de biens. Alors, séparée de biens, c'est un renseignement important. Ah oui, mince, je vais être obligée de passer très vite là-dessus, je vais montrer la diapo suivante, pardon. Hop, voilà, mince, je vais revenir. Pardon, pardon. Petit affolement. Alors, il y a un emballement de la machine, là, que je ne contrôle plus. Voilà, ça y est, je repasse en arrière. Je voulais juste vous montrer que apprendre que c'était quelqu'un qui était séparé de biens était important, puisque c'est un type de contrat matrimonial qui est... mince, je l'ai repassé. Ah non, il faut encore revenir. Voilà. Voilà, c'est la séparation de biens, c'est 8% seulement des régimes matrimoniaux dans la France à la moitié du 19e. La plupart des régimes matrimoniaux se concluent sous le régime de la communauté de biens. Donc c'est important de voir que cette femme avait choisi de faire le contrat de la séparation de biens. Donc ensuite, j'apprends à droite, en bleu, vous avez les dates d'entrée et dans l'appartement, ce qui est aussi important. Le montant des loyers, ce qui est fondamental pour avoir une idée du niveau de vie de ces femmes. Et à gauche, avec cet encadré jaune, vous avez la description matérielle de l'appartement et de la boutique que je vous passe. Et alors, j'ai eu beaucoup de chance, ça c'est pas toujours, mais il y avait un papillon qui était collé là, que je vous ai encadré en violet tout à fait à droite. Un papillon qui donne un certain nombre d'éléments, et en particulier le nom du notaire de Marie-Isabelle, ce qui a été évidemment une chance incroyable, parce que du coup j'ai pu aller voir tous les types d'actes qu'elle a pu signer. Voilà. Donc je passe, parce que j'ai déjà beaucoup parlé de Marie-Isabelle. Et avec Marie-Isabelle, j'avais donc entamé l'exploitation d'archives émanant de l'État par le biais de ses grandes institutions, avec l'armée. Et la deuxième grande institution à laquelle je me suis intéressée est la police, en particulier un service spécial, la police des mœurs, chargée de toutes les questions touchant à la prostitution. Et j'en arrive donc à la prostitution. Alors, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance, d'éditer en 2006, sous le titre « Le livre des courtisanes », une source exceptionnelle, à savoir un registre établi par la police des mœurs, qui dormait dans les archives de la préfecture de police de Paris. Alors, ce registre a été visiblement constitué après l'incendie de 1871, qui, vous le savez sans doute, a détruit l'essentiel des archives de la préfecture de police, ce qui est un drame pour les historiens. Et ce registre renferme plus de 600 rapports sur des femmes soupçonnées de prostitution clandestine. Alors, c'est d'abord un choc avec l'objet matériel de cette archive, qui mérite quand même qu'on dise deux mots. L'objet même dit l'importance de la source. D'abord, c'est une reliure qui n'est pas du tout commune au XIXe siècle, c'est plutôt une reliure dite à l'italienne, qui est plutôt caractéristique du XVe siècle, avec des coiffes qui sont ces pièces métalliques qui sont là pour renforcer la couverture, et également la pose d'un fermoir. Il manque la partie centrale qui permettait de fermer à clé, qui montre donc que ce registre était vraiment destiné à une grande confidentialité. On voit aussi un répertoire d'environ 615 noms, dont 200 clients identifiés, parce que par ailleurs, beaucoup de ces clients sont désignés par des périphrases, un notaire, un jeune homme, un riche américain, etc., etc. Il y a quand même 798 folios, hein, c'est quand même pas rien. C'est le dernier qui nous soit. Il y a un deuxième registre, mais qui est beaucoup moins intéressant. Celui-là est vraiment formidable, parce qu'il y a d'abord 415 femmes qui se retrouvent fichées dans ce registre, dans des rapports accompagnés pour environ un tiers de ces femmes d'une photographie. Donc j'étais contente, parce qu'en plus j'avais des photographies. Par exemple, voilà comment ça se présente. Donc, vous avez ici l'affiche de Cora Pearl, qui est une des plus grandes courtisanes du XIXe siècle. Donc voilà, je vous mets bien ce qu'on trouve. Alors vous voyez qu'on l'appelle, dites le plat du jour. Le plat du jour, c'est une façon de surnommer les femmes qui sont en fait qui travaillent dans des maisons closes et qui sont offertes aux tout venants. Hein, on les appelle le plat du jour, c'est pas très valorisant, mais évidemment, c'est comme ça qu'on parlait d'elles. Alors vous remarquez aussi l'écriture, qui est d'une calligraphie exceptionnelle, de régularité, et on voit bien qu'en fait on a recopié des rapports qui viennent d'ailleurs, et donc le registre en lui-même était en fait consulté par le chef du service de la première division de la préfecture de police et son supérieur hiérarchique. Il y avait certainement très peu de personnes qui avaient un accès direct au registre collecté, même si les rapports sont évidemment l'œuvre d'agents de la police des mœurs. Alors, 415 femmes se trouvent fichées. Un seul homme partage les honneurs, si je puis dire, de ce fichage avec les courtisanes. Il s'agit d'Eugène Janvier de la Motte, ce qui ne manque pas de sel, parce qu'il s'agit d'un préfet de l'Empire. Donc c'est un peu étonnant de le trouver là. Mais en fait, sa vie de débauché, en particulier ses recours perpétuels aux prostituées qu'il faisait venir dans sa préfecture de l'Eure, ainsi que ses indélicatesses financières, lui ont valu un procès retentissant en 1872. Et donc il s'est retrouvé, c'est le seul homme qui est fiché au milieu de toutes ces femmes. Par ailleurs, c'est un document qui a été élaboré sous la Troisième République, mais qui donne un regard essentiellement sur la prostitution du Second Empire. Donc on voit bien aussi, c'est un préfet du Second Empire qui est mis en cause. Je pense que les agents des mœurs ne se seraient pas permis de mettre un agent de la Troisième République en cause. Alors ce document est formidable parce que nous possédons beaucoup de sources sur les femmes qu'on l'on appelle soumises au XIXe siècle, c'est-à-dire enregistrées par la préfecture de police, soit qu'elles travaillent dans des maisons closes, soit sur le pavé parisien d'ailleurs. Mais nous n'avons pratiquement rien comme source sur les insoumises ou clandestines qui, par définition, échappent au contrôle des autorités. Or, d'après les projections que l'on peut avoir, et celle-ci est faite par Charles Lecourt, qui d'ailleurs dirige le service de la prostitution à la préfecture de police, il a fait une projection qui est assez intéressante. Pour 4000 soumises qu'il comptabilise, il pense qu'il y a environ 30 000 soumises à Paris. Donc vous voyez, c'est un rapport de 7 à 8. C'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de sources sur une minorité et très peu de sources sur la très grande majorité des prostituées. Alors on comprend très bien pourquoi la police des mœurs veut centraliser dans un registre toutes les informations qui touchent justement, alors on les appelle les insoumises ou les clandestines, hein, j'utilise les deux termes. Le premier enjeu affiché est la santé publique, puisque les clandestines, contrairement aux femmes de maison et aux isolées enregistrées, ne subissent pas l'épreuve de la visite sanitaire au dispensaire de Saint-Lazare et sont donc perçues comme des vecteurs privilégiés de la propagation de la syphilis. Ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, l'intérêt des familles. L'ordre intérieur de ces familles peut être chahuté par des adultères rendus publics, sans compter que le patrimoine familial est menacé par un marivolage ou un rejeton, fanatisé par sa maîtresse qui dilapiderait sans compter leur fortune, fortune d'ailleurs qui est souvent celle de leur femme ou de leurs parents. La police des mœurs s'attache donc à surveiller toute femme repérée par ces jasants pour sa conduite suspecte, donc vous voyez que c'est très large, ou dénoncée comme prostituée clandestine par un amant mécontent, une rivale jalouse, un voisin outré ou une proxénète déçue. C'est ainsi qu'on rencontre dans ce registre des femmes d'horizons sociaux très divers, de la fille du peuple à la femme du monde, de fortune très contrastée, de la femme qui loge en garni et racole sur le trottoir à la demi-mondaine qui habite un somptueux hôtel particulier et peut se permettre une clientèle choisie, souvent rencontrée d'ailleurs dans des maisons de rendez-vous. On trouve pêle-mêle dans ce registre des extraits de rapports d'arrestation et d'interrogatoire, des propos d'informateurs et plus généralement tout document susceptible de renseigner sur les principales protagonistes comme des billets à des proxénètes ou des articles de presse qui les mettent en lumière, particulièrement dans les domaines judiciaires ou artistiques. Selon le degré de notoriété et ou de délinquance des femmes fichées, les rapports peuvent être très sommaires, quelques lignes, ou alors au contraire très développés sur plusieurs pages. On y apprend beaucoup sur la modalité de la prostitution et sur ce que j'ai appelé la upper et la middle class de la prostitution. Le menu frottin, la lower class si on pourrait dire, intéresse très peu les policiers. Alors on apprend très concrètement sur les tarifs. Il y a 80 tarifs qui sont donnés, donc ça permet quand même d'avoir une idée très précise. Sur les circuits de la vénalité, il y a peu de choses sur les pratiques sexuelles, mais beaucoup sur le parcours de vie de ces prostituées, leur origine géographique, leur origine sociale, leur profession, les raisons qui les ont conduites à se prostituer, leur habitation, leur niveau de vie, etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, bien entendu, il n'est pas question pour l'historien de prendre pour agent comptant tous ces rapports dont beaucoup reposent sur des rumeurs, sans compter que l'éthique de ces agents des mœurs est très douteuse, puisque c'est eux qui bénéficient de la réputation la plus calamiteuse de tous les services de police. Par ailleurs, ces rapports sont visiblement rédigés à la hâte. Donc, en gros, si vous voulez, les inspecteurs rassemblent tout ce qu'ils trouvent, sans se soucier de la valeur des informations récoltées, et ils ne les recoupent pas, généralement. Ils observent, ils filent, ils espionnent, ils écoutent sans aucun respect pour l'intimité de leur proie, y compris en écoutant dans un cabinet particulier. Ils ne sont pas dans le cabinet particulier, mais ils écoutent l'oreille collée pour entendre ce qui se dit et ce qui se fait. Ils trouvent des indicateurs chez les tenancières, les filles de maison, les clandestines rivales, ils consultent les registres d'hôtels, interrogent l'entourage familial, les amis, le personnel des cafés, des restaurants, surtout les domestiques et les concierges qui apparaissent ici comme les auxiliaires les plus précieux de la police. On arrive toutefois très souvent à recouper les informations, enfin moi je suis arrivée à recouper les informations livrées par ces rapports, par exemple en utilisant d'autres rapports figurant dans les dossiers individuels d'une cinquantaine de femmes citées dans le registre. Je vous donne un exemple. Un exemple du registre concernant Marie ou Clotilde Charnel, puisque c'est très difficile d'arriver à l'identité véritable de ces femmes. Donc voilà, on explique que cette femme a été séduite par un amiral coupe-vent des bois. Coupe-vent des bois, c'est un amiral, c'est tout ce qu'il y a au sommet de la hiérarchie militaire. Je trouve dans le rapport individuel, cette fois-ci, de cette Clotilde Charnel, et dans le dossier de l'amiral coupe-vent au Chat, au service historique de l'armée de terre, d'autres documents. D'abord, une lettre de l'amiral qui reconnaît qu'effectivement, il connaît ces femmes et il se plaint, en fait, c'est une lettre qu'il envoie à la préfecture de police parce qu'il se plaint du chantage de ces femmes à leur égard. Alors c'est amusant parce que lui dit j'ai été très généreux à leur égard, et vous voyez que dans le registre on dit que en fait l'amiral ne leur donnait que très peu de choses. Donc évidemment là les choses sont différentes. Et puis surtout j'ai trouvé ça vraiment bien, la lettre qu'a envoyée cette jeune femme à l'amiral coupe-vent des voix, qui est vraiment la lettre de chantage. Et voilà, donc ça m'a permis de confirmer la véracité du registre. Voilà ce qu'elle écrit. « Votre conscience ne vous reproche rien, vous dormez bien tranquille, cependant vous savez que vous avez un fils avec une jeune fille de 15 ans que vous avez su déshonorer. Eh bien aujourd'hui, je suis décidée à tout à faire du scandale. Votre fils vous sera rendu par la nourrice, sic, pour l'orthographe, car mes moyens ne me permettent pas de nourrir le fils d'un amiral. Vous n'aurez pas à rougir de lui, car c'est tout votre portrait. » Bon, je suppose que l'amiral, effectivement, a dû avoir un petit peu peur de cette descendance. Et évidemment, je ne sais pas si il y a eu fils et si vraiment le père et le... Pour le coup, on n'avait pas droit aux ADN et à tout ça. Mais c'est quand même assez intéressant de pouvoir confirmer et en même temps étayer un petit peu les informations de ce registre. Ce registre fourmille aussi d'informations sur les clients. Et ça aussi, c'est une nouveauté parce qu'on a très peu de choses sur les clients. Il y a les noms. Ça qui est bien. Donc parmi les clients les plus illustres que je vous découvre là, je vous laisse découvrir. Donc ce sont vraiment les élites à la fois diplomatiques, militaires, politiques, financières, économiques, culturelles de la France, sans oublier quelques dizaines de notabilités russes, turques, anglaises, nord et sud-américaines, et puis aussi des personnages de l'histoire de France, des grandes dynasties. Et d'ailleurs, les agents ont manifestement l'ordre de rechercher l'identité des clients, même quand ils en ignorent le nom. Ils le précisent. Hein. On le voit parce que souvent, les hommes leur sont inconnus en même temps. Ils savent que voilà, il y a tel homme avec telle femme, mais ils ne savent pas qui c'est. On n'a pas tous les moyens d'identification qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait qu'ils demandent après, par exemple, au concierge, qui avez-vous passé ? Et donc, par exemple, ce concierge va dire, mange de Louane. Et quand moi, je dois faire tout le travail après pour deviner qu'il s'agit en fait de Delouane, ou un Connor pour O'Connor, Dillier pour Dillies. Donc voilà, il y a tout un travail à faire après d'identification de ces personnages, parce que c'est écrit de façon phonétique et de façon parfois assez lointaine. Et pour les femmes, c'est pas mieux, c'est même pire, hein, puisque ces femmes se dissimulent sans arrêt sous un jeu de noms et de surnoms. Donc par exemple, Mathilde Leroy, en fait, se fait appeler comtesse de Blenheim, parce que évidemment un titre aristocratique, c'est tellement plus chic sur une carte de visite. Donc elle s'arroge ce titre qu'elle ne possède pas, bien sûr, comtesse de Blenheim, je ne sais pas comment on dit, de Sigmaringen, dite de Bussy, ou de Marie Dubreuil, dite Fatma, dite Cléopâtre de Charny, dite Cléopâtre de Talandiera, ce qui évidemment simplifie pas la tâche pour moi pour les retrouver, mais aussi à l'époque déjà pour les agents. Et le chef, le préfet de la police de l'époque, Léon Renault, est le premier à avoir deviné tout l'intérêt de l'utilisation de la photographie pour rechercher des suspects. Et il encourage ses services à l'utiliser pour confondre tous ces personnages. Ce qui explique le fait qu'on trouve des photographies pour un tiers des prostituées dans le registre. Je rappelle aussi que l'époque s'y prête parfaitement, puisque depuis l'invention en 1854 du portrait au format carte de visite par Eugène Disdéry, qui permet de produire beaucoup de clichés à moindre prix, on trouve énormément de petites images rectangulaires dans la bourgeoisie et l'aristocratie. On comprend mieux alors la facilité avec laquelle le personnel de la préfecture a pu réaliser son impression de collection. Par exemple, cette photo qu'on trouve dans le registre, qui représente Anna des Lions, vient en fait d'une série de 8 photos d'une planche qui a été faite chez Disdéry. J'ai retrouvé la planche. Des tirages ont ensuite été proposés à la vente avant que la 2 soit achetée ou plus vraisemblablement réquisitionnée par les agents des mœurs, à moins qu'il n'ait été fourni directement par la courtisane. Sur les 143 photos du registre qui sont collées sous forme de rectangle ou d'ovale, quand elles ne sont pas découpées au plus près des visages ou des silhouettes, là, et aussi c'est assez intéressant de voir que les agents des mœurs s'amusent un peu à faire des collages, 53% représentent des comédiennes, ce qui est un pourcentage logique si l'on considère qu'elles sont les premières à profiter de la publicité. Est-ce qu'on peut me dire, j'ai encore beaucoup de temps, pas beaucoup ? Un quart d'heure ?
Oui, on a pu finir à 8h30, on a commencé un tout petit peu plus tard.
D'accord. Ok, je vais me presser un peu là-dessus. Donc, les comédiennes sont les premières en fait à profiter de la publicité offerte par l'affichage de ces portraits cartes de visite qui sont mis dans les boutiques des photographes, voire même d'ailleurs dans des épiceries, dans d'autres magasins. Donc, je vais passer un peu vite, mais par exemple, Blanche Dantigny, qui est une actrice du 19e siècle, est réputée pour la valeur de ses diamants qu'elle porte toujours sur elle, ce qui lui a valu cette phrase que j'aime beaucoup de Jules Barbey d'Aurevilly: elle ne joue pas, mais ses diamants jouent pour elle, ce n'est point une actrice, c'est une boutique de joaillerie. Donc on a ce genre de choses. On a aussi, après les actrices, les demi-mondaines. Et là, c'est intéressant parce que certaines utilisent les artifices du théâtre, parce que vous savez que les femmes n'ont pas le droit de s'habiller en pantalon. Au 19e siècle, je vous ai mis l'ordonnance du 16 Brumaire en neuf qui le précise, et là vous avez donc cette demi-mondaine qui, pour attirer l'attention, a décidé de jouer sur la transgression et donc de se faire photographier en écuyère. Par ailleurs, on trouve également, alors là c'est un grand étonnement pour moi, des femmes qui n'ont rien à voir avec le monde de la prostitution. Ici vous avez Olympe Audoire, qui est une féministe et une républicaine. J'allais dire, c'est le prototype de ce qu'on appellerait aujourd'hui la bobo, c'est-à-dire bourgeoise bohème. Vous voyez, alors, il y a une fiche sur elle, parce qu'elle vit, en fait, elle a un amant et qu'elle vit en artiste, puisqu'elle est écrivain et journaliste. Mais en fait, elle n'a rien à voir avec le milieu de la prostitution. Et c'est intéressant parce que sa photo, elle met les mains dans les poches. Vous savez qu'on vous l'a certainement dit, c'est très mal pour une femme de mettre les mains dans les poches. Et au 19e siècle, encore plus. Et c'est déjà une façon de s'affranchir des codes sociaux, des représentations des femmes au 19e siècle. Et on trouve même dans ce registre des femmes du monde, du très grand monde. Ici, vous avez une authentique marquise, et pas n'importe laquelle, la marquise de Gallifet, c'est une grande famille, qui se retrouve aussi épinglée dans ce registre. Mais ma photo préférée, si je puis dire, c'est celle d'une comtesse. Est-ce qu'elle l'est vraiment ou non? J'ai fait des recherches, j'ai pas réussi à voir si c'était une comtesse authentique ou non. Et c'est la seule qui est représentée nue. Alors, elle porte un masque, ce qui me ferait quand même penser qu'elle doit faire partie de la véritable aristocratie. Je vous laisse lire ce qu'en dit le registre. Et on peut évidemment se demander comment un tel tirage a pu atterrir dans les mains des agents des mœurs, puisque contrairement aux autres photographies, on n'a pas pu le trouver à la devanture d'une boutique, puisque le nu est frappé d'interdiction d'exposition. On n'a pas le droit d'exposer dans la société du 19e siècle des photographies de nus, que ce soit des nus artistiques, académiques, tout ce qu'on veut, c'est interdit, que ce soit des hommes ou des femmes. Bon, alors j'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi tout ce que je pense là-dessus, peu importe. Je pense que je ne vais pas avoir le temps non plus de vous parler d'une prostituée en particulier, et je vais aller plus directement vers les hermaphrodites, qui est ma recherche actuelle. Alors je précise tout de suite que je viens de terminer la partie documentation. Je suis comme l'écureuil, si vous voulez, qui est allé chercher ses noisettes un petit peu partout, mais qui n'a pas encore regardé son garde-manger pour voir le niveau des provisions et pour voir surtout ce qu'il allait faire de ses noisettes. Voilà, alors j'ai regardé aussi un petit peu la bibliographie, mais pas encore suffisamment pour être tout à fait au fait. Mais quand même, j'ai quand même une idée un peu, j'ai un petit peu publié là-dessus, donc j'ai quand même un petit peu une idée. Et c'est un troisième rouage que je peux voir. Donc après l'armée, après la police, cette fois-ci c'est plutôt la justice qui m'a intéressée avec les hermaphrodites. Alors je voudrais quand même citer d'abord Michel Foucault, qui évidemment a été l'un des premiers à évoquer les enjeux médico-judiciaires de la figure hermaphrodite. Je vous donne quelques indications bibliographiques. Un des premiers donc à en parler dans son cours au Collège de France du 22 janvier 1975, qui a été publié sous le titre des Anormaux, et qu'il a rendu célèbre également les hermaphrodites en publiant en 1978 le manuscrit d'Herculine Barbin, qui demeure le seul témoignage écrit pour le 19e siècle d'une hermaphrodite, même si je rappelle qu'il s'agit d'une édition, hélas, expurgée, qui avait été publiée pour la première fois en 1874 par le docteur Ambroise Tardieu. Je rappelle aussi que pour l'édition anglaise d'Herculine Barbin en 80, Foucault a ajouté une courte introduction que Judith Butler discute dans Troubles dans le genre, pour vous citer le titre en français. Enfin, je signale que Foucault prévoyait de consacrer aux hermaphrodites le tome 4 de son histoire de la sexualité et qu'il n'a pas eu le temps de le faire. Depuis Foucault, la réflexion a été considérablement étayée par les travaux, alors j'en cite quelques-unes et quelques-unes seulement, au passage, Anne Fausto-Sterling, Alice Dreger, Judith Butler, Elsa Dorlin, Marcella Iacu, Cynthia Cross et je pense notamment au numéro de NQF consacré en 2008 au rapport entre féminisme et lutte des intersexes, Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup aimé ce numéro parce qu'on donne la parole justement aux intersexes. Et tout dernièrement, Elizabeth Rice, une universitaire américaine, vient de faire une histoire des personnes intersexuées aux États-Unis. J'ai le livre, mais j'ai encore pas eu le temps de le lire. Ces travaux interrogent notamment la pertinence des catégorisations fondées sur le sexe et la sexualité et nourrissent le débat épistémologique sur le concept de sexe partagé en masculin-féminin selon l'héritage d'une pensée différenciatrice héritée du XVIIIe siècle mais systématisée au XIXe siècle. Par ailleurs, il faut avoir à l'esprit les travaux des biologistes qui, résonnant à l'échelle de l'espèce humaine, nous invite plutôt à penser un sexe unique en attirant l'attention sur l'état intersexuel et la complicité du processus génétique de déterminisme sexuel. Pour ma part, au-delà des discours médicaux sur l'hermaphrodisme qui ont fait l'objet pour la France et l'Angleterre des dernières décennies du 19e de l'excellent livre d'Alice Dreger, je souhaite une fois encore partir de celles et ceux qui sont directement concernés par l'hermaphrodisme. Que se passe-t-il quand on est hermaphrodite dans la société du 19e siècle ? Que d'ailleurs les gens se rendent compte que vous êtes hermaphrodite, ce qui n'est pas toujours le cas. Que se passe-t-il quand une personne découvre cet état, soit par elle-même, soit par la révélation d'un médecin ? Quand il ou elle est déjà engagé dans un sexe social donné, notamment à la puberté ou après le mariage ? Quel est son rapport avec la question de la réassignation de son sexe, volontaire ou non, juridique ou chirurgical, etc. ? Ce sont ces points qui attirent pour l'instant mon attention. Donc, à partir des publications médicales et des revues de droit, dans lesquelles on peut trouver mentionné plusieurs centaines, j'insiste sur plusieurs centaines, parce que souvent quand on parle d'hermaphrodisme pour le 19e, les gens pensent qu'il y a comme ça une dizaine de cas. Pas du tout. Dans les articles, il y a plus de 500 cas. Hein. Donc, je tiens à insister là-dessus. Moi, j'ai constitué une base de données d'environ 150 personnes pour le 19e siècle, plus une cinquantaine d'autres pour les autres siècles, pour lesquels je dispose d'une documentation complémentaire, plus ou moins fournie, et notamment d'archives manuscrites telles que les archives d'état civil, les actes d'état civil, les recensements de population qui permettent de savoir avec qui les individus vivent et donnent des informations sur l'âge, la profession, parfois la religion, les archives notariales. On trouve par exemple des actes de transactions immobilières, des inventaires après décès qui renseignent sur l'état et l'évolution de la fortune. C'est important pour ces hermaphrodites de voir si leur état influe sur leur parcours social, leur trajectoire sociale. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Plus rare, alors je vous montre, parce que c'est quelque chose de plus rare. Ah, j'ai oublié de vous dire des quelques titres pour l'approche biologique, je reviendrai dessus. Un acte respectueux. Alors ça, c'est typique du 19e siècle, puisque c'est une procédure obligatoire. Il faut savoir qu'un garçon, pour un garçon majeur et jusqu'à l'âge de 30 ans, qui souhaite se marier et qui n'obtient pas l'accord de son père, sa mère on s'en fiche, c'est son père qui est important, il doit faire cette démarche de déposer un acte respectueux auprès de son père. Et là, c'est celui de Marie-Marguerite Mété, qui est née fille en 1792, dont le sexe a été rectifié en masculin en 1814, mais qui conserve son prénom féminin, hein, Marie-Marguerite. Et voilà ce qui donc il fait cette démarche d'acte respectueux. Et donc le sieur Mété, son père est engagé à répondre, a dit que la conduite que son fils avait envers lui, et plus encore son état physique notoirement impropre au mariage, lui faisait un devoir de s'opposer autant qu'il le pourrait à son mariage. Bon, évidemment, pour moi, ce sont des informations vraiment intéressantes et importantes. D'abord parce que ça renseigne sur les rapports intrafamiliaux, mais ça renseigne aussi sur le rapport au mariage que Marguerite Mété semble détacher de la question de la reproduction, parce qu'il sait très bien qu'il est infécond. Alors, j'ai aussi donc utilisé les archives judiciaires pour tout ce qui est rectification d'état civil et procès en nullité de mariage. Enfin, je me suis intéressée à tout document qui me renseignait sur le parcours de vie de ces hermaphrodites, ce qui signifie concrètement une multitude de déplacements dans les fonds d'archives départementaux, une bonne trentaine à ce jour. Donc, c'est une démarche qui est à la fois longue et dispendieuse, chère, mais c'est nécessaire pour tenter de saisir ce qu'implique cet état ou cette condition hermaphrodite dans ses dimensions culturelles, sociales et politiques, à partir donc de l'étude des interactions entre les individus, leurs familles, les médecins et l'État à travers l'exercice de sa justice. Pour préciser les choses, je vais prendre juste un angle d'approche, et j'en ai bientôt terminé, dans le livre que je compte écrire cette année, qui est d'interroger par le prisme des hermaphrodites les modalités d'identification de l'individu par une société et plus généralement les tensions dans l'État moderne entre liberté individuelle et contrôle social. Ces tensions sont perceptibles dès le XVIIIe siècle, qui élabore à la fois une réflexion sur l'identification des individus, mais aussi sur les techniques qui la mettent en œuvre, comme par exemple l'état civil ou le passeport. Je vous montre avec d'autant plus de plaisir celui d'Henriette Génie Savalette de Lange, qui s'agit en fait d'un travesti, un homme ayant réussi à se faire passer pour une femme durant près d'un demi-siècle, et de surcroît dans les milieux de la société aristocratique de la monarchie censitaire, ce qui est assez amusant. Alors, on voit que ce passeport s'appuie normalement sur des critères d'apparence physique, mais qu'en fait, il est tributaire de paramètres sociaux, et notamment du vêtement, et qu'on ne vérifie pas si le vêtement porté, la robe, correspond en fait au sexe. Cette identification est aussi conceptualisée par les médecins à partir des dernières décennies du XVIIIe siècle, et ces médecins promeuvent, vous le savez, la différenciation des sexes. Cette différenciation des sexes est pérennisée par l'État dès l'inscription civile du nouveau-né, qui se décline exclusivement en sexe masculin ou féminin. Les actes d'État civil sont d'autant plus intéressants à étudier qu'ils contiennent souvent des erreurs de sexe, soit fausses déclarations volontaires, par exemple un père qui n'a pas envie que son fils parte au service militaire et qui trouve beaucoup plus commode de le déclarer en fille, soit parce qu'il y a une erreur de l'officier d'État civil, soit pour toute autre raison, je n'ai pas le temps de développer ici. Les médecins sont par ailleurs conscients de la difficulté qu'il peut y avoir à l'occasion à déterminer si le sexe d'un nouveau-né est masculin ou féminin. Et devant la probabilité de rencontrer des conformations génitales incertaines, certains pensent préférable de déclarer l'enfant à l'état civil de sexe neutre ou de sexe douteux. C'est le travesti dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est ici lithographié. Donc par exemple, le célèbre médecin Alexandre Lacassagne, est partisan de mettre sexe neutre ou sexe douteux dans les marges des états civils. Alors il faut savoir que ces demandes des médecins ne seront pas acceptées et qu'il faudra toujours dans l'état civil français déclarer si l'enfant est de sexe masculin ou sexe féminin. En Europe, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, la législation prussienne prévoit le cas des enfants qui ont un sexe incertain, et donc on dit que c'est aux parents de choisir le sexe, mais que l'enfant, une fois devenu majeur, pourra changer s'il s'estime plus à l'aise dans l'autre. Alors, quand, après la guerre de 70, dans le nouveau code allemand, cet article disparaîtra, ce qui en soi serait à étudier. Je vous montre un acte de naissance exceptionnel, au sens de j'en ai trouvé qu'un, personne ne m'a jamais parlé d'un autre comme ça. C'est en France, hein, un bébé qui s'appelle Camille. Alors Camille, c'est intéressant parce que c'est un prénom neutre en France qui peut aussi bien être porté par un garçon que par une fille. Vous voyez qu'au début, il devait s'appeler Camille Henri, du sexe masculin, ça a été rayé. Le Henri et le sexe masculin a été rayé et précisé dans la marge dont le sexe n'a pu être déterminé et à revoir. Et donc l'acte, en fait, est un acte illicite. C'est-à-dire l'officier d'état civil n'avait pas le droit d'écrire ça. Mais c'est quand même assez intéressant. Et j'ai retrouvé la trace du bébé, il est mort 2 mois plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est mort en s'appelant Camille Henri, cette fois-ci, de sexe masculin. C'est mis officiellement. Alors je ne sais pas si c'est parce que le sexe était plus facile à déterminer ou si parce qu'en fait, l'identité de sexe est plus très importante au moment où le bébé meurt. Ça, on en est réduit aux hypothèses. Donc face aux hermaphrodites, les médecins jouent souvent un rôle déterminant. Il faut rappeler que le milieu médical, qui au XIXe siècle prend toute sa puissance sociale, impose une stricte économie normative pour tout ce qui relève du corps, du sexe et de la sexualité. En même temps, tout ce bel échafaudage normatif est remis en cause par la seule existence de l'individu hermaphrodite. Pour les médecins, il représente un impossible sexe. Un corps dissident, singularisé par un enchevêtrement du masculin et du féminin que les médecins essaient de démêler en désignant à chaque fois si c'est le masculin qui l'emporte ou le féminin. Au cours du XIXe siècle, l'accord se fera sur la détermination glandulaire du sexe, l'ovaire fait la femme, le testicule l'homme. Plus on progresse dans le XIXe, plus on sent les médecins désireux de contrer la charge subversive d'une identité hermaphrodite, composite et iconoclaste qui défie et menace à leurs yeux l'édifice social. Ils découvrent avec un mélange de fascination et de répulsion des individus vivre en femme quand ils sont biologiquement hommes et vice-versa. Ils dénoncent ce qu'ils appellent des erreurs de sexe qui voient coexister un sexe social antagonique au sexe biologique. Ils s'appuient alors sur la photographie scientifique pour dénoncer sans relâche l'imposture d'un sexe qui en dissimule un autre. La photographie scientifique se propage à partir des années 1860, et c'est quand même pas anecdotique que la première photographie scientifique au 19e siècle soit justement consacrée à un hermaphrodite. Bon, j'ai pas le temps de la développer, je passe un peu parce que je suis un peu longue. Lorsque ces médecins se trouvent face à une erreur de sexe selon leurs critères, ils poussent dans la très grande majorité de leurs cas leurs patients à mettre en accord sexe social et sexe biologique. Il arrive toutefois que l'initiative de la réassignation de sexe vienne directement de l'hermaphrodite lui-même. Dans tous les cas, la rectification de sexe, pour être effective, doit être prononcée par le tribunal civil. C'est obligatoire en France. Quand c'est à la demande de l'intéressé, les choses peuvent aller très vite, et j'allais dire beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Ainsi, pour Rose Victoire Vivien, pour lequel j'ai trouvé bon nombre d'archives. Alors, c'est une fille. En 1802, elle est née en fille, elle a été élevée en fille. Elle est d'abord servante avant d'entrer en 1827 comme sœur, bonne sœur, dans la maison des dames hospitalières de Chartres. Un article de la Gazette des Tribunaux l'a dit très déçue de ne pas avoir trouvé à se marier. Malade, elle est amenée à consulter un médecin et c'est lui qui va lui révéler, à sa grande surprise, qu'elle est en fait un homme. Et elle désire donc changer de sexe finalement, elle trouve ça mieux, homme. Et elle fait appel à la justice qui nomme trois médecins pour l'expertiser, c'est la démarche. Lesquels ne trouvent, je cite, aucun des organes propres à la femme, mais au contraire trouvent, je cite toujours, tout ce propre à l'homme dans un état imparfait, il est vrai. Et c'est ainsi qu'en 1829, la cour de Dreux accorde à Rose Victoire Vivien, 26 ans, la permission de changer de sexe. Et donc elle va s'appeler à partir de là Rose Victor Vivien. Et dès qu'elle est devenue légalement homme, donc je vais prendre « il » puisque c'est son sexe social, il se marie aussitôt et même devenu veuf, il va se remarier. Et il est très intéressant parce qu'il est né fille d'un simple journalier. Et il est devenu ouvrier imprimeur, une fois qu'il est devenu garçon, puis propriétaire et rentier aisé avant de s'éteindre à 72 ans en digne notable de sa commune. Ce qui montre que son ascension sociale... alors certes, il a dû certainement s'affranchir du regard railleur, malveillant d'autrui, mais qu'un hermaphrodite n'est pas forcément condamné à l'opprobre et à la misère dans la société du 19e siècle, ce qui me renforce dans ce que je pense, c'est-à-dire que c'est l'argent qui est le premier agent discriminant au 19e siècle. C'est-à-dire un hermaphrodite riche, on lui pardonne son hermaphroditisme. Un hermaphrodite pauvre, ce n'est pas possible. D'autres démarches touchant à l'état civil peuvent s'avérer autrement plus complexes, comme lors des procès en annulation de mariage intentés par l'un des époux qui se proclame dupé par le sexe de l'autre. Or, dans le Code civil de 1804, les annulations de mariage ne peuvent être obtenues simplement en raison de l'impuissance du mari ou de la femme, ou pour mauvaise conformation génitale d'un des deux époux, encore que cela soit arrivé. Mais normalement, seule une erreur dans la... erreur dans la personne épousée peut être invalidant. Comme aucune précision n'est par ailleurs fournie pour apprécier qualitativement l'erreur en question, la plupart des plaignants mettent en avant l'absence d'organes constitutifs du sexe opposé chez leur épouse ou époux qui rendrait in fine nul un mariage conclu entre deux personnes de sexe identique, ce qui évidemment ne se peut pas. Alors certains cas ont vu des époux batailler à coups d'expertise médicale, et je prends juste un exemple et c'est promis je m'arrête, l'affaire Darbousse-Jumas. Antoine Darbousse, 23 ans, est un sériciculteur, donc nous sommes dans la bourgeoisie, hein. Plutôt aisé, c'est un protestant, pays Cévenol. Il se marie en 1866 avec une de ses amies d'enfance, Justine Jumas, 25 ans, qu'il connaît depuis l'enfance. Plus de deux ans après la cérémonie, il demande l'annulation de ses noces devant le tribunal parce que, dit-il, son épouse n'a aucun des organes distinctifs de la femme. J'ai mis deux ans à s'en rendre compte, mais ça c'est un autre problème. C'est le début d'une longue procédure qui ne va s'achever qu'en 1876, c'est-à-dire ça va mettre 8 ans, scandé par les interventions de plusieurs experts médicaux, et aussi ça passe par plusieurs tribunaux, mais je n'ai pas le temps de détailler cet aspect-là. Alors d'abord, Justine Jumas produit pour sa défense un certificat médical d'un docteur qui la déclare femme, tout en notant qu'elle n'a pas de vagin. Ensuite, voilà ce qu'on a, le mari réplique et fait appel au docteur Tardieu, qui est un grand spécialiste, qui lui dit, sans avoir examiné Justine Jumas, le seul qui a examiné Justine Jumas physiquement, c'est le docteur Carcassonne qui a dit qu'elle n'a pas de vagin, mais c'est une femme. Les autres, après, Justine Jumas a dit, moi ça y est, je me suis montrée une fois, maintenant c'est terminé. Donc tous les avis des personnes là, c'est à partir du certificat de Carcassonne et selon les dires de l'époux. Donc le docteur Tardieu déclare ne pas voir de femme dans l'épouse de Monsieur Tarbous et la croix homme. On a fait appel à un autre expert qui dit la personne en question doit être rangée dans la catégorie de ces sujets tératologiques, monstres, qui n'ont pas à proprement parler pas de sexe et qui ne peuvent par conséquent être unis par le mariage à aucun individu normalement organisé, quel que soit le sexe de ce dernier. Et le dernier médecin dit la personne n'est pas une femme, elle n'est vraisemblablement point un homme, elle ne possède donc très probablement aucun sexe. Mettez-vous à la place des magistrats, qui donc ont fait appel à plusieurs experts et dont pas un n'est d'accord. Donc il se trouve très perplexe parce qu'ils lisent des rapports qui concluent pour un à la femme, pour un autre à l'homme, pour un troisième au monstre et pour le dernier à une personne asexuée. Donc la Cour se contente de relever que Justine Juma n'est pas pourvue des organes naturels constitutifs de son sexe, ovaire et vagin étant absents. En conséquence, elle prononce la nullité de mariage qui sera indiqué dans le contrat de mariage, parce qu'évidemment le contrat de mariage est annulé du même coup. Et elle dit dans son rapport, et c'est ça que je trouve très intéressant, attendu que, enfin, le tribunal n'a pas à rechercher si la dite partie défendrait, c'est-à-dire Justine Juma, à cause de sa conformation et de sa constitution générale, appartient au sexe masculin ou au sexe neutre, s'il existe. C'est-à-dire, pour être plus simple, le tribunal dit, bon, nous, ce qu'on peut dire, c'est que vous n'êtes pas une femme, maintenant, ce n'est pas notre boulot de dire ce que vous êtes. Si vous êtes un homme, si vous êtes du sexe neutre, si ça existe, tout ça, ce n'est pas notre affaire. Donc, concrètement, ça veut dire que Justine est rentrée femme au tribunal, qu'elle en ressort dépourvue de sexe. C'est ça qui est extraordinaire. Comme d'identité civile, puisque au 19e, vous n'avez pas de sexe, vous n'avez pas d'identité civile, aujourd'hui aussi d'ailleurs. Donc c'est une situation absurde et intenable. Alors j'ai retrouvé sa trace après le procès parce qu'elle m'intéressait beaucoup, et de fait, elle continue à vivre en femme, privée de toute possibilité d'autonomie, sans profession, condamnée au célibat. Elle ne quitte pas son village et sa famille jusqu'à son décès en 1920, à près de 80 ans. Quant à son mari, aussitôt le mariage annulé, il se remarie, a 3 enfants de sa nouvelle épouse et entame une carrière politique qui le verra maire et conseiller général républicain. Bien entendu, en essayant de déplacer le point de vue de l'hermaphrodisme des médecins et des magistrats vers les hermaphrodites eux-mêmes, j'ai bien conscience des limites de ma démarche. En particulier si on accepte les confessions d'Herculine Barbin, nous n'avons pas, pratiquement pas, d'expression directe de la part des hermaphrodites au XIXe siècle. Simplement des réactions ou des paroles qui nous sont rapportées par le truchement des médecins et des actes de justice. Pour autant, je défends cette démarche avec ses fragilités méthodologiques, et cette démarche me paraît nécessaire parce qu'il s'agit de substituer des logiques individuelles et singulières à des logiques purement médicales et juridiques. Aussi parce que dans un rapport de dominant-dominé, il me semble essentiel de valoriser le dominé et qu'il me semble préférable de le faire de façon imparfaite que de ne pas le faire du tout. Alors on aura, j'espère, toutefois compris qu'il ne s'agit pas de multiplier dans mon travail le récit de vie troué, pour reprendre la belle expression de Roland Barthes, mais bien d'analyser la confrontation d'expériences singulières avec des cadres sociaux étatiques plus ou moins poreux. De ce point de vue, nous savons bien que nous apprenons de toute façon beaucoup plus sur la société du XIXe siècle, ses modes de fonctionnement, comme son imaginaire et ses angoisses, que sur les hermaphrodites eux-mêmes, qui restent de toute façon très peu audibles pour l'historien. Voilà, je vous remercie, pardon pour la longueur.
Moi, j'aurais une question, vous en avez un peu parlé à la fin et pas trop dans votre première partie, c'est sur les différences qu'il pourrait y avoir entre ville et campagne. C'est parce que vous avez beaucoup parlé d'exemples parisiens, en fait, et je me demandais si c'était quelque chose en rapport avec vos sources, si c'était un choix, et donc si vous aviez des éléments sur est-ce qu'on peut parler d'une histoire de la sexualité à l'échelle nationale, ou est-ce que c'est à l'échelle parisienne, ou est-ce que c'est à l'échelle urbaine, etc.
Alors, je dois différencier mon travail de thèse où j'étais, en fait, je travaillais sur, à partir du moment où vous travaillez sur les sources du moins, vous travaillez sur la bourgeoisie et l'aristocratie, vous ne travaillez pas sur les paysans qui ne savent pas écrire au XIXe siècle ou très peu d'entre eux. Donc, je travaillais sur les élites, entre guillemets, sans la connotation péjorative que le terme d'élite peut avoir. Enfin, péjoratif pour ceux qui ne sont pas des élites, hein, pas pour les élites eux-mêmes. Et donc, j'étais plutôt dans un milieu urbain. En revanche, avec les hermaphrodites, là, j'ai changé. Et au contraire, c'est l'effet inverse de source, qu'on appelle les effets de source. C'est-à-dire, les bourgeois ne se manifestent encore moins que les hermaphrodites des milieux populaires. Et surtout, les médecins ne les exposent pas. Parce que ce qu'on trouve dans les comptes rendus médicaux au XIXe siècle, c'est essentiellement des gens qui viennent du peuple. Pour des raisons très simples, c'est que comme en plus les médecins n'hésitent pas à mettre des photographies, alors parfois ils mettent des initiales, parfois ils donnent les noms, ça dépend. Donc évidemment ils mettent en avant, vous pensez bien qu'ils ne vont pas exposer à la curiosité générale des gens de la bourgeoisie, de l'aristocratie. Donc l'effet de source est cette fois-ci inverse. Donc je travaille, et par ailleurs je travaille sur ce que j'ai dit, sur des fonds d'archives départementaux. Donc là je brasse toute la France. Pour ça d'ailleurs je mets beaucoup de temps. Du coup, là, je vais. Alors, j'ai quand même des cas, y compris des cas dans la noblesse d'Espagne. Donc, il y en a quand même. Ils sont moindres. Et surtout, je trouve finalement moins de renseignements sur la bourgeoisie globalement que sur les milieux populaires. Où j'ai réussi quand même, grâce au. Enfin, milieux populaires, le haut des milieux populaires, c'est-à-dire ceux qui font des actes notariés. C'est ça qui m'a permis de m'en tirer. Quand ils font des transactions immobilières, quand ils achètent une pièce de terrain, quand ils se marient, quand ils font un contrat de mariage, etc. Donc j'ai évolué et je dois dire, je suis assez contente de la tournure nouvelle et de pouvoir travailler pas simplement sur la bourgeoisie, l'aristocratie, mais sur un échantillonnage social beaucoup plus vaste cette fois-ci.
Oui, j'ai une question à propos de l'exploitation des sources. Par exemple, pour revenir sur cet exemple du registre des mœurs que vous avez montré. Alors, vous nous avez surtout montré comment, à partir de ce registre, vous pouvez entrer dans le monde de la prostitution en recoupant différentes informations pour savoir quelles étaient les réalités du monde de la prostitution. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ce registre et ce texte pour analyser plutôt ce que vous avez dit un peu en conclusion, disons les représentations des policiers eux-mêmes sur la sexualité, sur ces questions-là. Vous avez juste donné une petite entrée en parlant de cette féministe qui était enregistrée comme prostituée alors qu'elle n'avait rien à voir avec le monde de la prostitution, justement par le fait qu'elle a des amants, elle est considérée comme prostituée, donc c'est déjà toute une... Ça indique toute une représentation. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de ce type-là ?
Alors moi, je me suis contentée, si je puis dire, de faire tout le travail sur le texte et de faire une introduction et deux répertoires, un par nom de personne et un par nom de lieu, parce que les lieux de la prostitution paraissaient importants. Mais il y a évidemment, tout le travail est à faire sur le vocabulaire utilisé par les agents des mœurs et sur, justement, quel regard ils posent, parce qu'en fait, c'est le regard qu'on a sur les prostituées essentiellement. Et par ailleurs, il faut savoir que ces agents des mœurs sont en cheville plus ou moins. Souvent, ils sont d'abord, ils ont un rapport très coercitif avec ces prostituées. C'est-à-dire, en gros, il faut être très gentil avec moi parce qu'autrement, tu vas te retrouver fiché à la police et tu vas te retrouver à devoir travailler dans une maison close et non plus comme tu veux chez toi ou dans une maison de rendez-vous. Ça, on sait que ce sont des pratiques qui existent et qui sont assez courantes pour les agents des mœurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir leurs critères à eux, ce qu'ils utilisent comme critères, y compris sur la beauté des femmes, par exemple. Un des éléments qui revient sans arrêt, c'est pas les cheveux ou la taille, etc. Ça revient aussi, mais un des éléments les plus importants, c'est les dents. Mais il faut aussi se replacer dans l'époque. Avoir de belles dents, c'est aussi, c'est-à-dire des dents qui ne soient pas pourries. C'est à une époque où la brosse à dents fait ses débuts, hein, simplement, et c'est simplement dans les milieux de la bourgeoisie, de l'aristocratie, qu'on utilise la brosse à dents. Donc avoir de belles dents, c'est aussi avoir une hygiène du corps. Et évidemment, pour les prostituées, c'est un critère essentiel. Donc au début, c'est un peu surprenant de les voir autant insister sur l'état de la dentition plutôt que sur la taille, par très peu de la poitrine, par exemple. Pas du tout quelque chose qui... je crois qu'il n'y a aucune réflexion sur les seins ou même la taille très peu des femmes. Mais donc, c'est un travail à faire sur la façon dont sont rédigés et voilà, quel stéréotype véhicule ces rapports.
Parce que j'ai juste une question complémentaire, en fait. La police, si je comprends bien, en France, elle est rattachée strictement à la police, elle n'a rien à voir avec la police sanitaire.
Alors, non, elle n'a rien à voir.
Parce que suivant les cantons...
Ça montre le service.
D'accord, parce que suivant les cantons ici en Suisse, jusque pratiquement la Deuxième Guerre mondiale, c'est essentiellement une affaire de police sanitaire qui aborde la prostitution. Et c'est plus tard que ça devient aussi clair qu'en France.
Alors nous, c'est en fait ce lien d'une police spécialement consacrée à repérer les prostituées clandestines et tout, en fait, ça remonte à la fin du XVIIIe siècle. Et il y a un livre, il y a une très belle thèse d'Erika Marie Benabou qui s'appelle... j'ai oublié le titre, mais c'est sur les courtisanes au 19e siècle, au 18e, pardon. Et c'est un livre remarquable, qui n'est pas assez connu d'ailleurs, qui montre ça, et ça sera gardé, et ça sera en fait la police des mœurs, ce qu'on appelle la mondaine, hein, plus tard, va disparaître, j'ai plus la date exacte, dans les années 70 ou 80, je crois, assez tardivement. Oui, dans ces eaux-là. Voilà.